Alors cette parole, nous allons la lire dans la Bible, puisque c'est notre livre de base, et nous allons l'ouvrir à Marc 4, au verset 30 à 32. Marc 4, 30 à 32. Jésus dit, « À quoi peut-on comparer le royaume de Dieu ? Avec quelle histoire est-ce qu'on peut en parler ? Le royaume de Dieu ressemble à une graine de moutarde. Quand on la sème dans la terre, c'est la plus petite de toutes les graines du monde. Mais ensuite, elle pousse et elle devient la plus grande de toutes les plantes. Elle a des branches si grandes que les oiseaux peuvent faire leur nid sous son ombre. »
Bonjour à tous. Lorsque nous entendons Jésus nous parler du royaume des cieux, nous sommes surpris de constater qu'il configure ce royaume à la terre. Lorsque Jésus nous parle du royaume des cieux, il ne parle pas tant, merci Daniel de régler le micro, de ces cieux auxquels nous soupirons, mais il nous parle de cette terre sur laquelle nous sommes encore. Et pour nous aider à comprendre les limites, les paramètres, les critères de ce royaume céleste et pourtant terrestre, le Christ nous donne ce qui m'a apparu bon de relever ce matin avec vous, à savoir cette image, cette parabole du grain de Sénévé. Vous remarquerez que Jésus est, soit dit en passant, un adepte de ce que nous appellerons la théologie naturelle. Souvent, pour expliquer les choses d'en haut, dont l'application est sur terre, il a recours à l'utilisation de la nature. Et d'ailleurs, je pense à cela en voyant certains ici, Ellen White aura aussi, bien des années, voire siècles plus tard, recours à la même pédagogie. Et je dois dire que nous sommes au bon moment pour parler de théologie naturelle, car regardez le soleil que nous avons dehors, espérons que nous le conservions. Regardons grâce à ce soleil les fleurs qui se trouvent lorsque nous prenons nos voitures sur les ronds-points, par exemple. Les arbres qui bourgeonnent, fleurissent, les pelouses bien vertes, bien taillées aussi. Tout ceci nous invite à rebondir sur cette théologie naturelle chère au cœur de Jésus-Christ et particulièrement l'enseignement que nous trouvons dissimulé derrière le grain de Sénévé. Le pasteur puis philosophe américain Emerson disait que la nature corrige les Écritures. C'est vrai. Lorsque Galilée passa par là et ça lui en coûta, il nous apprit que ce n'est pas la création qui tournait autour de la terre, mais la terre qui tournait autour du soleil. Or, lorsque nous lisons la Bible, nous apprenons que le soleil se lève et qu'il se couche. Preuve en est que la nature, l'étude de la nature, la théologie dite naturelle, nous renseigne, précise la théologie scripturaire. Jésus a donc bien raison. La nature est très présente dans les textes bibliques, et particulièrement les arbres. Pourquoi ? Parce que l'arbre est souvent le symbole de l'homme. Il y avait deux arbres en Éden. Certains théologiens interprètent ces deux arbres comme deux types d'humanité. L'arbre de la vie, l'homme qui est plein de Jésus-Christ, et donc vie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Celui qui est ambigu, il y a du bien chez lui. Il reconnaît peut-être même Dieu, mais il y a aussi du mal. Toute la part humaine, égocentrée, anthropomorphée. L'âme est aussi le symbole de l'homme parce que lorsque nous observons l'âme, l'arbre, Nous y avons là un très bon repère de toutes les dimensions humaines. Les branches de l'arbre nous invitent à considérer le ciel, l'endroit d'où tout vient, puisqu'il s'agit du lieu de Dieu. Mais lorsque nous considérons le tronc, la partie que je qualifierais intermédiaire, c'est l'arbre dans toute son humanité. C'est l'homme dans toute son humanité. Et lorsque nous considérons les racines, c'est l'homme dans toute sa finalité. Poussière, tu es. Poussière, tu redeviendras. L'arbre nous invite à considérer d'où vient la vie. Qu'est-ce que la vie ? Où va la vie ? Et c'est, je le crois, tout ce que nous allons retrouver dans cette image chère à Jésus-Christ que nous retenons ce matin, celle du grain de sénevé. Le premier point que je retiens de cette parabole, c'est ce par quoi tout commence toujours, à savoir Dieu. La première réalité que l'on observe, c'est qu'un grain est porté en terre. Et jusqu'à preuve du contraire, pour qu'un grain soit porté en terre, il faut qu'il y ait une personne, une cause, qui place ce grain en terre. Voilà l'enseignement fondamental de notre parabole. Qui est cette main ? À qui appartient cette main qui va, à un moment donné, poser en terre le grain de sénevé ? Qui va dire oui ? Je prends ce grain que j'ai d'ailleurs façonné, créé, nous l'avons chanté, des vases d'argile façonnés par Dieu. Et je vais le placer là où il va pouvoir vivre, se développer. Vous remarquerez que cette décision, que ce oui, que cette intention rime ici avec parole et avec parole créatrice. Je veux en cet instant me souvenir que lorsque Dieu a créé, il a parlé, que le premier jour advienne, que le deuxième jour advienne, et les choses sont advenues. Je veux me souvenir que lorsqu'il s'est agi de ressusciter Lazare, Dieu, Jésus, a crié « Lazare, sors !» Et enfin, comment ne pas anticiper les joies à venir ? La résurrection des morts, au grand cri final. Je crois que la parabole du grain de sénevé nous invite à considérer cette intention primordiale, cet acte d'abord divin et nécessairement divin, qui consiste ici à poser en terre ou dans un pot tout simplement la graine dont nous parlons. Nous nageons, les amis, dans le concept de la grâce, dans la théologie de la grâce. Tout vient de Dieu. S'il n'y avait pas à un moment donné dans l'esprit de Dieu le désir de voir advenir chacun de nous aujourd'hui, eh bien, nous ne serions pas là ce matin à chanter, à prier, etc. Ce oui symbolique, c'est cette parole inaudible, mais créatrice, qui fait que vous et moi avons un jour été plantés en terre, comprenons, mis au monde. Oh, bien évidemment, cela a passé par le mystère, la complexité de l'acte procréateur. Mais à l'origine, avant cet acte même, c'est l'intention, le oui de Dieu qui était là et qui fait que nous sommes aujourd'hui, nous, là, en cet instant. D'un point de vue philosophique, nous pourrions aussi étayer cette théologie naturelle, celle de la primauté de Dieu, de la grâce. Et je parlerai ici du fondement de toute chose. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà laissé aller à imaginer qu'est-ce qui était le fondement de tout ce que nous observons. Nous sommes ici réunis. Nous sommes là parce qu'un jour nous sommes nés. Nous sommes nés parce que maman et papa l'ont voulu. Et si nous remontons ainsi à l'infini, nous arrivons toujours à une cause. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de cause. Du moins, il n'en reste qu'une. Il s'agit de Dieu. La cause fondamentale. Et je veux voir dans ce oui, cette décision, cette volonté qui pousse Dieu à mettre en terre cette graine, cette cause fondamentale, ce qui explique le pourquoi de toute chose. Vous remarquerez que dans le domaine de la science, on arrive aujourd'hui à l'idée de cette cause fondamentale. Si vous vous intéressez au domaine de la cosmologie, de la cosmogonie, aux scientifiques qui essaient de trouver, de penser l'origine de notre monde, de notre cosmos, on en arrive aujourd'hui à des hypothèses scientifiques, réalistes, logiques, qui acceptent l'idée d'un esprit fondateur, d'une cause initiatrice. Je me souviens de cet ouvrage dont je vous vantais les mérites il y a quelques mois, écrit par deux personnages un petit peu décriés en France, mais qui scientifiquement ont tout de même un certain poids, à savoir les deux frères Bogdanov. Ils ont écrit un livre, Le visage de Dieu. Pourquoi ont-ils écrit ce livre? Pourquoi ont-ils donné à ce livre ce titre? Parce qu'à la lumière de leurs investigations scientifiques, et s'appuyant notamment sur des scientifiques bien plus émérites qu'eux, ils disent, il y a, au-delà de tout ce que nous pouvons observer et analyser, une raison supérieure, bien évidemment. Ils ne nous parlent pas d'un Dieu créateur, qui aurait en 1, 2, 3, 4, 5... 6 créés et le 7e se reposer. Mais tout de même, ils ont simplement, grâce à des gesticulations nécessaires, subtiles, pertinentes, gesticulations intellectuelles, abouti à l'enseignement du grain de Senevé. Il y a une intelligence qui pousse à un moment donné l'être qui la possède à prendre le grain et le mettre en terre. C'est là, je le crois, un enseignement important aujourd'hui. Nous vivons un monde troublé, dit-on, parce qu'un manque de repères est évident. Nous ne savons pas d'où nous venons, comment savoir où nous allons. Il est tout à fait logique, normal, de se trouver dès lors confronté à ce désemparement quasi général. C'est là que notre société, c'est là que chacun de nous avons pour tâche, c'est d'ailleurs là tout l'intérêt de la prédication chrétienne, la prédication de la foi, celle du Créateur, de restituer cette raison première à tous ceux et celles qui voudront bien l'accepter pour gagner en sécurité. Si nous ne savons pas d'où nous venons, si nous ne savons pas de qui nous venons, nous ne pourrons, je le disais, jamais avancer comme nous le devons. Regardez les enfants. Prenez deux enfants dans une même famille. Si au premier, les parents vont donner le sentiment qu'il a été voulu, c'est-à-dire qu'il est aimé, en de grandes proportions, celui-là croîtra en sagesse et en grâce, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Par contre, le frère, peut-être même jumeau, s'il n'est pas entouré par ce soin particulier, cet amour, si à travers cela on ne lui donne pas le sentiment qu'il a été voulu, le chemin de vie sera probablement très différent de celui du premier. Des destins croisés, tout simplement parce qu'à la base, le désir, la volonté du géniteur n'a pas été exprimé. Le grain de Saint-Nevé nous rassure. Il nous indique que nous avons été voulus. Et voulus de qui ? De Dieu. De cette raison ultime. De celui qui est à l'origine de tout ce que nous pouvons observer, et même de l'immensité. Pour en revenir au cosmologue d'aujourd'hui, il n'y aurait plus un univers, il y aurait des multivers. Comprenons des multi-univers, c'est le terme qu'ils utilisent. Celui qui a pu créer autant, créer même l'infini, a un jour, pour chacun de nous ici présents, voulu nous placer en terre afin que nous advenions. Je crois qu'avec cette idée, on peut aller très loin. Rassurer, quelles que soient les circonstances, les conditions de notre existence. Il me semble que le deuxième enseignement contenu dans cette parabole du grain de Saint-Nevé est lié à la croissance. Je ne suis pas sûr que nous soyons tous désireux de croître, c'est-à-dire de nous développer. Et j'aimerais pour cela vous livrer une expérience vécue cette semaine, mais qui m'a, et vous comprendrez pourquoi, très inquiété. Il s'agit de ma fille Émilie. Émilie nous dit à table cette semaine, du moins à sa maman, « Je voudrais mourir ». Hein, Pierre ? 6 ans, je voudrais mourir. Bien évidemment, vous vous sentez mal. Et puis vous posez des questions, mais pourquoi ? Et la réponse rassurante, parce que si je meurs, je vais au ciel. Mais si je vais au ciel, je serai pour toujours un enfant. Certains ne veulent pas grandir. Vous savez, on appelle ça en France le syndrome de Peter Pan. C'est vrai. Je ne sais pas si certains ont vu le film, j'oublie le nom, c'était un gars d'une 30aine d'années qui restait chez ses parents, à tel point que les parents en avaient assez, et ils essayaient de trouver tous les moyens pour le faire partir de la maison. C'était Tanguy. Très bon film d'ailleurs. Le grain de Saint-Nevé nous dit que nous devons grandir. Et comment nous dit-il ça ? Il nous invite à ne pas créer et cultiver une fausse image de Dieu. Le Dieu que je qualifierais, appellerais de la baguette magique. À savoir que lorsque ça ne va pas, nous pouvons nous tourner vers lui, il intervient, le miracle, et voilà, tout repart bien, comme sur des roulettes. Non. Jusqu'à preuve du contraire, Jésus, Dieu, n'ont jamais fait apparaître comme ça, de façon subite, immédiate, telle une génération spontanée, un chêne centenaire. Ils l'ont fait apparaître, ce chêne, mais à travers le long processus de la croissance, du développement, de la progression. Et c'est là que le grain de Saint-Nevé nous laisse une leçon extraordinaire. Vous savez que chaque transition de l'existence est un traumatisme en soi. Déjà quand nous venons au monde, l'enfant ne veut pas venir. Il aimerait rester dans ce liquide, pour ne pas dire paradis, amniotique. Mais les mécanismes naturels vont l'extirper de la matrice maternelle. Et d'ailleurs, comment exprime-t-il ce désarroi ? Par le pleur. Rassurant pour nous, car signe de vie. Et puis emmener un enfant à l'école et regarder son comportement. Vous le faites basculer, c'est une révolution sociale pour lui, du cocon familial un autre cocon, n'exagérons pas non plus, celui de l'école, maternelle qui plus est. Mais pour lui, c'est un drame. Et pour certains, pendant des mois, lorsqu'à 8 heures, on accompagne l'enfant, il pleure, il refuse l'entrée dans la classe. Et vous pouvez ainsi lister toutes les grandes phases, les grands paliers de notre histoire humaine. Souvent, nous signons à travers nos valses hésitations la difficulté que nous avons à accepter la nécessité de la croissance. Le grain de Sainte-Vé nous invite à comprendre que pour croître, il faut d'abord s'abandonner. S'abandonner d'abord à Dieu. Car c'est lui qui nous donne ce qu'il convient pour passer d'une étape à l'autre de notre existence. C'est lui qui qualifie, c'est lui qui dote. Il arrive que parfois, lorsque nous sommes confrontés à une nouvelle échéance, nous hésitions. Pourquoi ? Parce que nous sous-estimons notre potentiel, nous pensons que nous ne pouvons pas y arriver. Et il suffit de trouver la force, le courage nécessaire pour franchir l'étape, et nous nous apercevons comme par magie que finalement nous avons ce qu'il convient. Pourquoi ? Parce que Dieu qui est bon s'est donné à chacun ce dont il a besoin. Dieu nous invite ici à profiter de chacune de ces étapes, de chacune de ces difficultés, comme autant de tremplins, de starting blocks, nous aidant à aller de l'avant pour recevoir, grâce à cette avancée, les dons de Dieu qui vont avec et qui nous qualifieront pour évoluer au mieux dans ce nouveau terrain et passer plus tard à une étape supérieure. D'ailleurs, regardez dans le domaine spirituel, c'est exactement la même chose. Jésus, je le disais il y a un instant, grandit en sagesse. Vous savez que la théologie spirituelle que certains appliquent à Jésus est aussi une théologie progressive. La sanctification s'applique aussi pour le Christ, comme elle s'applique pour chacun de nous. Et certains, si nous regardons par exemple le moment du baptême, perçoivent ce baptême comme nécessaire à Christ pour pouvoir, par les qualifications spirituelles reçues à ce moment-là, évoluer au mieux et parfaitement tout le temps de son ministère terrestre, ces 3 années ô combien importantes. Pour nous aider à avancer, à ne pas rester paralysé par les peurs, les a priori, nos limites, nos contraintes. Regardons Dieu non pas comme cette baguette magique qui, si nous sommes honnêtes, n'intervient jamais dans notre vie, mais plutôt comme cette présence fidèle, toujours là, capable, sans que nous nous en rendions compte, mais avec une efficacité incontestable, capable de nous donner ce qu'il convient. Avançons avec cette idée de Dieu, d'abord. Et je pense bien évidemment, au moment où je dis cela, au prophète Élie. Vous vous souvenez d'Élie ? Ah, l'homme de Dieu ! Un prophète tellement inspiré que son disciple Élisée demanda une seule chose, d'avoir une double portion de l'esprit de son maître. Un prophète qui est capable, au nom de Dieu, d'égorger 400 prêtres de Baal. Pour quel résultat ? Une dépression. Une simple dépression nerveuse. Il demande la mort. Et comment Dieu lui apparaît ? Je ne suis pas dans le vent violent. Je ne suis pas dans le tremblement de terre. Je ne suis pas dans le feu. Comprenons, je ne suis pas dans l'extraordinaire. Je ne suis pas dans le tumultueux. Je suis dans un doux murmure. On peut aussi traduire une voix ténue. Ténue mais constante. Chaque jour à nos côtés.
pour nous aider ainsi et seulement ainsi à progresser spirituellement, mais dans tout le reste de notre existence. Je ne sais pas si vous aimez les cathédrales. Nous en avons une très belle à Paris, Notre-Dame. Nous avons une autre très belle cathédrale à Chartres. Et nous avons en France, mais pas que, de superbes cathédrales. Ce qui m'interpelle lorsque je regarde une cathédrale, c'est pas tellement le produit fini, même si en grande partie cela m'émerveille. C'est surtout le temps qu'il a fallu pour les construire, ces cathédrales. Vous avez une idée ? 2 siècles en moyenne. 2 siècles. Autrement dit, celui qui a posé la première pierre n'a jamais vu la dernière. Et bien des générations après lui. Je veux me souvenir en cet instant que Paul dit de chacun de nous que nous sommes des temples. Le temple d'Hérode n'a pas été construit en un claquement de doigts. Même si c'est Dieu qui veillait à sa construction en ayant donné à Moïse, j'entends, les plans. Tout cela s'inscrit dans le temps. S'inscrit dans le cran nécessaire à une croissance indispensable, au développement de l'être. Ce que le Seigneur veut, et c'est ce pourquoi il prend du temps, c'est que nous puissions lentement mais sûrement nous approcher de ce que nous avons perdu, image de Dieu. Redevenir au mieux ce que nous étions. Nous approcher au mieux de ce que le Christ a parfaitement démontré, achevé. Ce que doit être la vie d'un homme, refléter pleinement le caractère de Dieu. N'appliquer seulement dans son existence que la volonté de Dieu. Voilà le chemin que le grain de Sainte-Vé nous invite à emprunter. Un chemin qui s'inscrit forcément dans le temps et la durée. Et qui nous invite, pour arpenter ce dur chemin parfois, à accepter le seul Dieu qui vaille pour chacun de nous. Celui d'un Dieu présent, fidèle, imperceptible, mais agissant. Enfin, et j'en terminerai, il y a un enseignement extraordinaire, inhérent au grain de Sainte-Vé. Franchement, vous aimez être comparé à une plante de potagère ? On aurait pu utiliser un lys, une rose. Moi, j'aime beaucoup les peupliers. Un peuplier, un grain de moutarde, c'est pas joli. Mais ici, l'important, c'est pas la beauté, c'est l'utilité. C'est peut-être parce qu'il n'est pas si joli que cela, cet arbre, que beaucoup vont pouvoir s'identifier à lui, et qu'il va alors, in fine, jouer pleinement la partition qui lui est donnée. Abriter, être un lieu d'hospitalité, être un refuge, un havre de paix. Je crois qu'il y a là aussi une finalité humaniste, ambitieuse, mais réaliste, qui nous est proposée avec la parabole du grain de Sainte-Vé. Je veux en cet instant me souvenir de ces paroles de Jésus qui résument toute la loi. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et aime ton prochain. C'est finalement ce que nous dit le grain de Sainte-Vé, lorsqu'il devient, au terme de sa croissance, un lieu qui crée pour l'autre de l'ombre. Et vous savez, l'ombre, en ces terres de soleil, et j'en sais quelque chose, moi qui viens du sud de la France, c'est bon, c'est utile, c'est indispensable. Voilà quelques enseignements qui nous paraissent importants. J'aime les mots de cet auteur anonyme du XVIIe siècle au sujet de Jésus. Je suis absolument sûr de moi quand je dis que toutes les armées qui ont jamais défilé, que tous les parlements qui ont jamais siégé, et que tous les rois qui ont jamais régné, tous mis ensemble, n'ont jamais affecté la vie de l'homme sur cette terre, autant que cette vie unique, vie esselée. Il parle de Jésus. Jésus était le grain de Sénévé porté à son paroxysme. Un grain de Sénévé qui a grandi, qui s'est développé, au mieux que nul homme ne l'a encore jamais fait et ne le fera jamais. Ceci dit, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas de mesurer l'écart, à mon sens infranchissable, entre le Christ et nous, mais la direction que le Christ nous donne, le chemin qu'il nous trace, la voie qu'il nous indique. À nous, à notre échelle. À nous, dans notre lieu d'habitation, dans notre famille, sur notre lieu de travail, où que nous soyons, là où nous le pouvons, de devenir cet être sans grande apparence, Jésus, mais qui, encore aujourd'hui, occupe une telle importance dans ce que nous appellerons maintenant la civilisation humaine. C'est tout un programme. C'est très facile de le dire. Beaucoup plus difficile de le faire. Beaucoup plus difficile de réaliser tout ce qu'en quelques minutes nous venons d'indiquer. Mais c'est là, chers amis, que la foi intervient. Souvenons-nous que ce grain a été posé par la bonne volonté divine. Ce qui sous-entend que cette bonne volonté s'exerce au début du processus, mais tout au long de celui-ci et jusqu'à son terme. Il nous revient dès lors, pour vivre cette croissance, pour vivre ce développement de l'être, de nous accrocher à cette cause fondamentale qui se situe à l'origine de nos existences, au développement de notre existence aujourd'hui et à la finalité de celle-ci. C'est là ma prière pour chacun de nous ce matin. Amen.